Le spectral est une des problématiques profondes, sinon fondatrices du texte théâtral. Depuis l'Antiquité, le théâtre est le lieu où l'on vient entendre les morts. Spectacle et spectre partagent d'ailleurs la même étymologie. Specio et spectum renvoient au regard, au miroir, au simulacre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la figure du mort fait un retour sur la scène contemporaine. Emblématique du théâtre de l'après Auschwitz, le cadavre est le témoin de la catastrophe, la figure du scandale et de la violence généralisée. Dans une société où la mort est marginalisée, où les corps défunts sont pris en charge par des professionnels et relégués dans des espaces spécialisés, soigneusement délimités, la scène théâtrale contemporaine pourrait bien redevenir un art funéraire. Genet considère que l'art du théâtre s'exerce prioritairement dans les cimetières. Dans Fin de partie, Beckett déclare que tout pue le cadavre. Dans La furie des lentilles, Edouard Bond fait dire au premier homme « Je sais que vous êtes des hommes parce que vous avez forme de cadavre ». Sur la scène novarinienne, la présence du mort acquiert une visibilité quasi obsessionnelle qui exhibe un catastrophisme jubilatoire. Les morts sont innombrables, mais la figuration des cadavres est à la fois hyperbolique et comique. Quelles relations entretiennent le rire et la mort sur la scène novarinienne? Quels sont les ressorts et les ressources de ce rire lazaréen qui insuffle au cœur du spectacle grotesque de notre monde une vitalité explosive? Telles sont les pistes que je propose d'explorer aujourd'hui. Premier point, la thanatopholie sur la scène novarinienne. Dans le théâtre novarinien, la mort est d'abord un nom en proie à une hétéronomie radicale. C'est une figure nominale qui fait l'objet d'une prolifération excessive. L'onomastique donne une idée de cette omniprésence. Parmi les centaines, les milliers de moribonds qui traversent les listes, on recense par exemple l'homme de Billot, l'homme de Gibet, l'homme de Macabère, l'homme de Cendre, l'homme de Poussière, l'homme de Ténébron, l'homme de Macabre, Jean Macabon, Jean des Planches, Jean Tombe de Quoi, Jean Tombe du Long, Jean d'Hécatombe, Jean Sapin, Jean Toussaint, Jean Cadavre et ses acolytes, Jean son cadavre, Jean cadavre et l'esprit. Le substantif mort traverse toutes les catégories du discours. Nom commun, patronyme, nom à particule, adjectif, la mangeuse morte, verbe ou périphrase verbale, defunctus est. Il fait également l'objet d'une multitude d'expansions ou de compositions cocasses. Dans Je suis, on croise un Jean-François de la mort qui sort. Dans La chair de l'homme, on rencontre le médecin du malade du mort, le négociant de Jean de la mort. Dans Le jardin de reconnaissance, le creuseur nécromant, une femme funéraire, ainsi qu'une madame Quick, ou bien encore un cadavre feignant la vie dans l'acte inconnu. Loin d'être un nom figé, le mot mort est le support d'une identité transitoire entraînée dans le grand cycle d'une reproduction morphogénétique. Le champ lexical de la mort engendre une foule de néologismes. Le moribé, le cadavrier pouf, macabère, madame la cadavresse, le docteur de pompe, sans doute funèbre, le creuseur nécromant ou bien encore le doc sarcoff et le sarcofrier. Inutile de poursuivre, de prolonger, dans cet excès de noms, c'est la catégorie générique de l'homo sapiens qui est comiquement rebaptisée homo sapin et qui donnera naissance, par exemple, à une mademoiselle Corbillard, ainsi qu'une foule de clones aussi peu probables que la figure du mort impesteur, sans oublier dans la scène le nom de Lazare, le plus illustre des ex-morts, qui se voit inversement réduit à l'apocope Laz, ce qui lui confère une double touche de familiarité et de fraternité. Prises dans une sorte d'accélération burlesque de la langue, les morts font entendre un déferlement de voix d'outre-tombe. Dans le discours aux animaux, c'est une voix post-mortem qui parle, au-delà d'elle-même, habitée, possédée, traversée par d'autres voix d'outre-tombe, sans jamais pouvoir s'arrêter ni se reconnaître dans aucune d'elles. Dans Vous qui habitez le temps, le gardien de cailloux annonce « C'est ici ma dépouille ». Et déclare qu'âgé d'un an au moins le quart, ses parents le nourrirent en deux pour le mourir de force. Dans Le repas, la mort remue, comme dans La nuit de Michaud. Loin de se borner à un état d'être, la mort envahit l'espace, comme si elle était devenue habitable. Dans Le discours aux animaux, on se rend à Sarcofiac, Verrier du Glas. Dans La chair de l'homme, à Caveau-Plage. Dans L'acte inconnu, on circule Boulevard Nécrobiotard, quand ce n'est pas au thanatorium. Dans le discours aux animaux, les habitations sont d'ailleurs franchement spectrales. Tout pied à terre est déjà un pied dans la tombe. L'architecture est précisément détaillée. Alors il me prit et m'emmena dans la tombe, couloir 18, section 3 terres, pension 8 cordes, escalier A, écrou 800. En fait, la mort n'est pas une catégorie abstraite. Elle synthétise au contraire une foule de détails, à la fois très concrets et très croustillants. On apprend par exemple que le mort se nourrit d'un bouillon tragique. Il circule en nécromobile et parle le cadavré. C'est que la mort n'est jamais définitive. Elle est au cœur d'un mouvement perpétuel, comme le rappelle le narrateur du discours aux animaux qui annonce « Demain, d'accord, je change de tête de mort ». On l'aura compris, dans le théâtre novarinien, la mort se conjugue à tous les temps. On décède très vite de la vie en la décédiamoussant, car elle nous fait toujours mouriasser. C'est que la mort est au fondement de tout. De terminal, comme c'était le cas dans la poétique d'Aristote, le récit d'une agonie est ici inaugural. Au commencement des pièces novariniennes, la catastrophe a déjà eu lieu. Alors, si la mort est au commencement, la naissance est finalement toujours celle d'un cadavre. Qu'est-ce que cet homme a été sinon un cadavre tombé d'une femme ? Demande le narrateur du discours aux animaux. Dans le monde novarinien, le temps procède à contre-temps, on commence donc par mourir. Le début est à la fin, et la fin est un éternel recommencement. Dans ce contexte, on ne s'étonnera pas que les hommes de Novarina s'évertuent à raconter leur naissance inversée ou leur mort prématurée, comme l'histoire de la capture de l'enfant Écusson, dont le narrateur résume les tribulations. Il mourut au commencement, puis naquit dans les sans-suites. Dans le drame de la vie, une voix annonce qu'elle commence à vivre mort. Dans le discours aux animaux, la voix post-mortem du narrateur fait le décompte improbable des récits ayant eu lieu l'an suivant précédant ses naissances. Dans la chair de l'homme, on remonte le temps et on l'appelle comme au temps de la Genèse pour le faire surgir. Et dans le drame de la vie, le chien annonce que l'homme n'est pas né, car le monde finit avant qu'il soit commencé. Les pièces novariniennes dessinent en effet une temporalité cyclique où l'origine et la fin se rejoignent et s'annulent, où les lois biologiques s'inversent, où les frontières entre les temporalités finissent par se dissoudre. Lorsque le temps tourne en rond, c'est notre logique temporelle qui ne tourne plus rond. L'engendrement est sous le signe de l'hécatombe. La pulsion de vie est une pulsion de mort massacrante. Poussée à l'excès, la dilatation temporelle fait sortir le temps de ses gonds. On entend alors les trompettes du jugement dernier annoncer le début de l'humanité. Dans « Vous qui habitez le temps », Jean-Jean, de la fin des temps, se présente au centre de la nativité comme si l'action, comme au temps de la Bible, s'étirait entre Genèse et Apocalypse. Les textes de Valère Novarina sont en effet traversés par une violence macabre inextinguible. On se crime, on se suicide, on s'entretue régulièrement. Comme dans le théâtre et son double où Artaud prophétisait la destruction totale du monde, Valère Novarina devient prédicateur d'Apocalypse. Son théâtre programme une véritable passion destructrice. Dans l'Origine rouge, l'évangéliste fait sonner les trompettes pour donner l'effroi, puis demande que l'on amène les cinq plaies sonnantes trébuchantes. Dans le drame de la vie, le mort annonce que le monde entre en fusion, le monde entre en confusion. Le prologue s'achève sur l'exécution de Buffet, qui se poursuit par l'hécatombe d'une foule de personnages qui se criment à toute vitesse. On prophétise la venue du dieu vengeur dont Montrimon rappelle que lorsqu'il entre dans un vivant, le monde est démoli. Le discours aux animaux commence lui aussi par l'annonce d'un meurtre. J'ai toujours vécu pour me venger d'être. Condition sine qua non de la tragédie ou du drame, le meurtre, dont la violence est fondatrice, dirait René Girard, est la répétition d'un autre meurtre ancestral, le meurtre originel d'Abel et Caïn. Quand le mot « mort » se confond avec son homophone, il montre les dents. Dans la chair de l'homme, on assiste au grand avalage du monde. L'élimination du genre humain est programmée par le banquet qui s'ouvre sur la rue des pompes funèbres et se poursuit dans la tombe, au milieu des pierres et de la poussière. On brandit des écriteaux sanglants pour afficher sa cruauté. « Vivre et saigner est ma maxime de vie », claironne le professeur jambiste. C'est en effet une grande scène de carnage qui se donne en spectacle, au cours de laquelle l'avant-dernier des hommes pourra déclarer « J'ai considéré la création, j'ai vu qu'elle était devenue cadavre. Et Jean Singulier, qui succède à la logique et la grammaire dont je suis, peut contempler l'humanité qui se gélatinise. Dans ce paysage d'extrême négativité, on pourrait espérer des opérettes qu'elles annoncent un univers apaisé. Mais c'est le contraire. Elles s'activent à réactiver la mort. Dans l'opérette imaginaire, Anastasie contemple la vie défaite et détruite. L'ouvrier Wisseps se plaint qu'il a mal à son cadavre. Un mort traverse la Seine sur un chariot poussé par Galoupe. Et le valet de carreau de préciser que les morts disent du mal de la vie, qu'ils ne se souviennent plus d'avoir vécu, et ils la déblatèrent. À la fin, la femme pentagonique annonce l'entrée de la parole en sang. Viennent ensuite les enfants de la colère, dont les oripeaux sont faits avec des couteaux, car ils attendent de débarrasser la terre de la présence humaine. Métaphore de l'existence, les fontaines de perdition racontent qu'il n'est de vie que dans l'écoulement de la douleur et de la mort. Cette topographie du mal résume la condition humaine pour en révéler la quintessence toute négative, comme le rappelle dans la scène Isaïe Animal, une vie humaine est une défaite jusqu'à l'os. Même la Sibylle est au bout du rouleau. On l'aura compris, la machine dramatique d'une pièce à l'autre se dessine clairement, de la mort du moi à celle de l'humanité, en passant par celle du corps et du monde, l'œuvre novarinienne programme une néantisation universelle. Dans la scène qui se réfère explicitement au temps de Babylone, on répand les cendres du monde car tout tombe en miettes. Le tableau est en effet désastreux. Isaïe Animal en fait le bilan. La prime vert flétrit, le rossignol est pris dans le ruisseau à sec, tout tombe en miettes. Tous les écriteaux portent sigis, les squelettes des oiseaux chantent partout, couac, printemps pourri, et les animaux de conclure, Monsieur Pâques est mort. Que reste-t-il de l'homme au terme de ce carnage? Une anatomie vidée, qui ne cesse de rappeler qu'elle est vouée à la mort. L'incessante litanie de la dynamique du pire pourrait figurer un pessimisme outrancier. La représentation que nous propose Valère Novarina de notre monde est en effet sans concession. Les hommes de Novarina ressassent toutes les thématiques pessimistes qui, de l'ecclésiaste à Cioran, traversent le monde des idées, enfilent toutes les vieilles certitudes des métaphysiques du néant en produisant toutes les variations sur les thèmes du pire, l'inconvénient d'être né, la matière tragique du réel, à brève échéance, la certitude du pire, l'éternel retour de la négativité. En un mot, la permanence de la mort, dont l'éveilleur, dans vous qui habitez le temps, surpassant en désespoir Paul du néant, rappelle le nihilisme absolu en déplorant méthodiquement toutes nos positions de reproduction, à l'envers comme à l'avant. Proche des pensées cyniques de Schopenhauer et de Cioran, les hommes de Novarina répètent la condamnation de la reproduction qui transmet avec elle le virus de la maladie humaine. Le poids du corps confirme la malédiction, c'est pourquoi les femmes ne mettent au monde que des cadavres. Alors, que faire pendant la matière, quand la mort est partout? La seule possibilité, mourir de son vivant et pourrir de rire, selon la formule novarinienne. On comprend alors pourquoi les pièces novariniennes sont agoniques, c'est qu'il faut passer de l'autre côté le plus vite possible. À partir de là, le public est embarqué dans une folle épopée dramatique, une sorte de thanatopholie, conduite par une puissance de décomposition et de contestation, qui provoque un comique de funeste, dont la caractéristique est de développer une poétique du pire par le biais du rire. La théâtralisation du macabre, porteuse de déflagrations brutales et de violences hurlantes, s'accomplit en effet sur le mode héroïco-burlesque. L'apocalypse se déroule dans une ambiance de carnaval. Associée au rituel d'un sacrifice, elle exacerbe toutes les logiques du pire dans des proportions démesurément loufoques, si bien que le tragique devient franchement horrible. Dans le drame de la vie, les trompettes de la mort sont remplacées par l'accordéon et le Golgotha est le stade du mont. Dans ce contexte, l'exhibition sadique affiche un côté montreur de foire qui a tôt fait de rejoindre la farce. On retrouve les images connues, compissage, coups, travestissement et injures, le dépeçage du corps et de la figure humaine est typiquement rabelaisien, On se souvient que durant la guerre des Andouilles, Jean faisait figure d'anatomiste attitré qui transformait les corps humains en hachis, l'homme de Maclumerde est lui aussi l'objet d'une dissection carnavalesque et culinaire. On le saigne pour le remplir d'air, comme on le ferait d'un ballon de baudruche. Plus loin, on le remplit au couteau pour lui manger l'arrière-train. Quand les hommes s'assassinent, c'est en rythme et dans une ambiance de ripaille qui multiplie les scènes de clownerie et de macabrerie. Au banquet funèbre, on choisit les bas morceaux. En entrée, je cite, on mange de l'arrière-train, pendant que Thuyaude fait son numéro de danse, le triple patte en costume à manche-pied. Le repas bascule vite dans un joyeux cannibalisme, le sport est de manger une tête de mort. Entre ensuite un porc qui n'est pas encore mort, qui lui est aussi sans tête, et qui se précipite sur les morts pour les manger. Dans le second tableau de la lutte des morts, on procède au dépeçage comique de la victime, Lander Charlet. Puis on apporte à Frigoli, ainsi qu'à la banquière, le pantalon à suicide. L'ingéniosité sadique de la lutte carnavalesque se manifeste dans la circulation d'accessoires à torture qui ne sont pas loin des pinces à porc, du ciseau à oneille et du couteau à figure du père Ubu. Un peu plus loin, je cite, « Les enfants piquent des plumes aux endroits gras et lui appliquent un bonnet. La nube, au troisième tableau, est revêtue des derses à queue. Un fossoir possédant lui tient lieu de lunettes et il est ceinturé par un funambe cadet. Il gémit tout son soin pendant l'heure, après que l'attrain lui a percé la fouenne. Au déguisement et travestissement s'allient les bastonnades carnavalesques contre les parlants. Les morts des quatrillons prennent la tête de Lander et la trempent dans l'eau. Les enfants lui foutent des coups de palme et la didascalie donne le spectacle d'une mutilation qui conjugue hilarité et cruauté. « Voyez, monsieur, dame, les mains sont sciées et sont restées. Elles pendent toujours sous le plafond de la chambre, au câble à Poitiers. » Mutilation qui s'achève par une crucifixion, dans laquelle le sang changé en sperme annonce l'exercice du sauveur. Quand macabrerie rime avec clownerie, la mort devient un numéro de haute voltige dont le ratage est spectaculaire. L'exécuté Buffet salue alors le monde bien bas, après être entré en décomposition. Dans cette ambiance farcesque, la mort perd son caractère nihiliste. Elle s'apparente à une mécanique comique qui s'enraye. Quand elle touche des personnages épisodiques, simples silhouettes sans épaisseur, qui ne surgissent sur la scène que pour être renvoyées au néant, elles deviennent franchement désopilantes. Dans le drame de la vie, les hommes d'hécatombe entrent pour sortir aussitôt. La scène, telle une trappe, s'ouvre et l'homme mort disparaît tel un diable dans sa boîte. Dans la chair de l'homme, la descente aux enfers est une procession théâtrale qui, à force d'être outrée, finit par se parodier. L'apocalypse prend alors un tour orgiaque, ou bien elle bascule dans la caricature jusqu'aux limites de l'impossible et du monstrueux. Dans l'esprit du Grand Guignol, créé en 1897 par Oscar Métainier, spécialisé dans les pièces d'horreur, le théâtre de Valère Novarina développe un humour noir, où se mêlent le douloureux et l'amusant, le pathétique et le grotesque. On se vautre en effet dans le morbide. Une femme par la fenêtre cultive les délices d'un cannibalisme fraternel et lance à qui voudra bien l'entendre « Coupez-moi en deux et rendez-moi à manger à ma sœur !» Novarina ne lésine pas non plus sur les canulars et les blagues morbides. Dans la chair de l'homme, l'humour potache bascule du côté de l'humour potence. La question, dois-je me pendre ou pas ? Posée par l'enfant de corde sur quatre postales à 787 correspondants relevés dans l'annuaire pour avoir porté le nom de corde ou la corde, donne lieu à un morceau de bravoure qui se termine par un libre piqué arrière sur son cabrade, saut coréen, double pied monté et retour pied sur terre. L'humour noir n'est pas dépourvu de gravité, mais son ennemi mortel est la sentimentalité. Autant dire qu'il aime choquer, transgresser les tabous. Dans la lignée du Petit Corbillard illustre fondé par Camus en 1910, dont la devise était « Humour, délice et morgue », les opérettes n'hésitent pas à en remuer le couteau dans la plaie. On exalte le sang, on théâtralise un dégorgement de flux qui reflète les désirs de massacre tapis au cœur des hommes et de la société. Dans l'Origine rouge, la scène, sciée en quatre, s'ouvre sur une didascalie qui programme de violer la forme du corps pour donner le spectacle de réjouissance macabre. Je cite, « On amène une femme, malheureusement sciée en deux, miraculeusement la tête et les pieds parleront. épisode qui n'est pas sans faire écho au style d'exécution de la parèdre de carnaval, appelée la carême ou la vieille, et qui était sciée ou fendue en deux. Dans les brèves de la scène, la farce grand-guignolesque ne recule ni devant le mauvais goût, ni devant la déviance ou le scandale. Cela donne, par exemple, des récits de mutilations improbables dans un charabia scientifique qui mêle l'horreur et le ridicule. La machine à tir voici surgissant. Un enfant de 3 jours vient d'être découvert atrocement mutilé par la dorsalisation effectuée in vivo sur le bambin par son pédiatre et parrain, présumé ami de la famille, rencontré au chevet de son propre père. Les 3 parents trop confiants n'en reviennent pas. Fondé sur le difforme et l'excès, le comique macabre devient franchement horrible. Les machines à dire voici raffolent de situations rocambolesques, comme celle du mort retrouvé dans son congélateur, que la machine à dire voici débite froidement. La machine à dire voici. Le corps d'un expert comptable de 47 ans a été découvert dans son congélateur à Berck-Plage. Une enquête est en cours à Limoges. Les machines à dire voici enfoncent le clou dans les annonces nécrologiques. Il a plu à Dieu de rappeler à lui son falsificateur Benoît Marchisseau. Jean-François lui-même et son double vous font part de leur résolution de partir prochainement de ce monde sensible. Et Jean-Noël vous annonce son suicide pour demain. On l'aura compris, les opérettes exacerbent une jubilation pour l'excès, le répulsif et l'écœurant. Le tragique dans ce contexte, c'est de ne pas l'être. Poussé à l'excès ou englué dans le quotidien le plus bas et le plus trivial, bref, toujours rattrapé par le ridicule, elle refuse de s'élever au tragique. L'opérette, forme épuisée par les clichés et les vieilles rengaines éculées, est par nature un genre désastreux. Son art se fonde sur une poétique de la catastrophe. Mais l'opérette n'est pas le genre des grandes catastrophes. Elle n'a pas cette dignité-là. On ne retrouvera pas d'explosion nucléaire comme chez Bond ou de grands drames historiques comme chez Müller. L'apocalypse, dans l'opérette, est le spectacle de la petite mort. Ce qu'elle met en scène, c'est le carnage de l'infinie quantité des petits riens tragiquement insignifiants. L'écrabouillage de la princesse Bibi, le naufrage du galipettant, la mort d'un chien tué par le poids de son propre cerveau. Les opérettes majorent en fait la catastrophe mineure, mais ce qui manque à la catastrophe en qualité est en fait compensé par la quantité démesurée et indéterminée de ses détails. Les figures novariniennes claironnent une pléthore de désastres, de plaies et de fléaux, dont la seule nature catastrophique est d'être excessivement ordinaire. Pourquoi nous font-elles mourir de rire ? Pas seulement parce qu'elles sont ridicules, mais parce qu'elles donnent le spectacle de notre monde depuis la tombe, dans un amas confus de paroles creuses qui apparaissent et disparaissent sans raison. Bref, elles se prêtent au jeu de la mort pour en creuser l'insignifiance, pour ne pas la prendre au sérieux. Mais le jeu nul en vaut la chandelle. À force d'user la mort, elle l'épuise et la renverse. Le tragique est un tragique d'opérette. Le jeu de la mort, un simulacre, un jeu pour rire dont le sérieux est de ne pas prendre la mort au sérieux, car l'erreur tragique serait en effet de croire à la mort. C'est ce qu'enseigne la Bible. C'est aussi la leçon de théâtre que donne le mort dans les opérettes. La mort n'est pas ce qu'on croit. C'est pourquoi elle ne doit pas être crédible. La mort de l'opérette imaginaire ne s'exprime qu'en chantant. Quand on le sort de son linceul, il brandit une banderole qui porte l'inscription « L'amour est voyant ». À la fin de l'Origine rouge, il déploie la même banderole où il est écrit que le temps nous tue par amour. Et à la fin de la scène, le pauvre s'adresse à la machine à dire voici pour lui demander « Voulez-vous surgir hors de la mort ?» La mort est donc un siège à bascule qui propulse de l'autre côté. C'est le drame de la vie. Mais le spectacle du pire n'est pas le pire, mais sa mise en scène. Dans les opérettes, l'acteur est un moribond qui à la fin se relève. Belle leçon de résurrection. Il faut donc se soumettre à l'amour du temps jusqu'à la mort comprise pour habiter la vie éternellement. La leçon de ténèbres appelle la lumière à traverser ce théâtre de fantômes, de misère et de désespoir pour l'arracher du néant. Le comique De Funeste affirme son optimisme, mais sur le mode de l'envers. S'il en appelle à la mort, c'est parce qu'il croit farouchement à la renaissance. La tendance morbide est parée d'une dimension thérapeutique. Car pour Valère Novarina, le comique, par sa tonicité exceptionnelle, est capable de renverser le nihilisme de la mort. « Mort à la mort » est-il souvent répété. Le message est biblique. La passion christique vient sauver l'homme de la mort par sa mort. Il faut donc porter le fardeau de la mort à son paroxysme pour s'en délester. Et pour restaurer la vie, il faut commencer par la meurtrir et en ouvrir les plaies. La dramaturgie apocalyptique propose alors une iconostase. Elle entretient avec le monde un rapport semblable à celui des prêtres, des chamans, des médiums, un rapport mystique et cathartique. Ce qu'elle cherche, c'est ce point de retournement apocalyptique où la fin est signe de recommencement, où la mort poussée au paroxysme fait basculer le drame du côté d'un surdrame où tout dégénère pour se régénérer autrement. Contre le modèle d'un dénouement tragique, car le dernier des péchés serait la désespérance, et contre toute forme d'achèvement, le comique de funeste de cette liturgie apocalyptique a une visée double et inversée, exacerber le processus de mort tragique pour rendre la mort impossible. À partir de là, la mort devient réversible et le comique lazaréen. Il insuffle au cœur du tragique un vitalisme explosif. Novarina choisit en effet de faire un théâtre de mort vivant où les fantômes n'en finissent pas de peupler la scène, de nous étonner par leur vitalité. Si les personnages sont souvent déjà morts, ils jouissent d'une capacité miraculeuse à parler encore et encore, c'est-à-dire dans le fond, à ne pouvoir appréhender une fin. Le théâtre novarinien joue constamment d'un brouillage carnavalesque entre vivants, morts et fantômes, tout en multipliant les signes d'un réalisme macabre. Ceux qui viennent à mourir n'en finissent pas de vivre, ou bien n'attendent pas d'avoir fini de vivre pour se précipiter chez les morts. C'est que les morts ne parviennent jamais à mourir une bonne fois pour toutes. Leur vivant n'est pas comme chez Beckett, un paralysé, mais un agité, un homme tombé qui toujours se relève, car l'homme novarinien est touché par la grâce. Une grâce ridicule, certes, mais qui le sauve toujours in extremis de l'inéductable, comme le raconte ici l'homme aux as. Pendant que je chaussais ma corde de vrai, Dieu me tenait la tête de biais et il évita. C'est que l'avantage revient finalement non à la mort, mais à la vie. Le plus étonnant n'étant pas que les vivants soient déjà pris dans la mort, mais des morts vivants, c'est-à-dire des morts qui n'en finissent pas de vivre frénétiquement. Dans la scène, le mort est une sorte d'enragé, qui déclare ne plus pouvoir s'entendre avec ses cendres. Ou bien c'est un mort-né dont on annonce qu'il porte plainte. Isaïe Animal tente d'éviter les morts qui se promènent le long des autoroutes systématiques. Dans l'Origine rouge, on déterre son cadavre pour l'enterrer ailleurs, mais il colle à la peau. Tous ces cadavres qui n'arrivent pas à tenir en place sont désopilants. En fait, la mort dans sa dimension comique rappelle que l'homme est incarné et que la résurrection se nourrit de charnel, comme le constate l'homme aux as. Je cite « J'ai vu dans mon mort qu'il y avait comme un corps qui était encore. J'ai vu dans mon rien que la cicatrice d'un corps qui était en moi. » Valère Novarina n'est pas un métaphysicien du néant ni un poète de la mort mais de la vie. Le cadavre ne se réduit donc pas à l'horreur ni au tragique. C'est un corps poussière qui appartient au monde des choses concrètes, ridicules et frivoles. C'est pourquoi la théâtralisation du macabre se mêle à notre quotidienneté la plus familière. Rien de plus humain et de familier que ces cadavres qui viennent sur la scène pour raconter leur petite misère. Cette inscription du surnaturel dans notre banalité contredit l'absurdité de la mort. Quand ils reviennent de la mort pour raconter leurs mésaventures, c'est pour en rappeler tous les désagréments ridicules. Ce que regrettent les morts de l'opérette, ce sont des petits détails, des petits riens minuscules qui constituent l'étrangeté de notre quotidien. C'est le galoupe qui se moque du mort qui ne peut plus manger de confiture, ou le mort qui se plaint de l'inconfort de sa posture sous terre et qui hurle qu'il ne veut plus retourner dans son cercueil. Dans la scène, c'est l'inverse. Le mort se réjouit de la saveur des pissenlits et vante les mérites de sa boîte en verre. Dans tous les cas, le macabre, adouci par la saveur du quotidien, conserve l'appétit de la vie, le goût de la chair. Car le fantôme n'exclut pas la matérialité charnelle du corps. Valère Novarina réactive d'ailleurs le topos carnavalesque du cadavre fertile. Dans le drame de la vie, Classio s'appuie sur le mort, il se penche sur lui et pose sa tête sur son ventre, cherche un moment dedans, puis en retire un œuf. Le néologisme Bercueil, qui associe pour les indifférenciés le berceau et le cercueil, le début et la fin, est une autre variante de ce mariage burlesque. La thématique de la mort grosse est aussi biblique. Le symbole eucharistique traduit le moment magique de cette réversibilité du corps fini encore éternellement mouvant. Le sang, cruor, le sang qui se répand comme un flux polymorphe, est au cœur de cette réversion. Associé au drame de la vie, qui s'écoule comme un long fleuve de sang, celui des vivants qui palpitent dans les veines des nouvelles générations, celui des morts dont se nourrissent la terre et l'histoire, le sang charrie la vie comme la mort. Le sang, c'est l'offre, écrit Novarina. Versus jubilatoire, qui fait appel aux pulsions de mort et de meurtre, le sang est alors la force libératoire qui permet à la vie de s'affranchir des frontières du corps. Dans la dramaturgie novarinienne, la parole est associée au sang christique qui vient libérer le corps de son image, le langage du sens et l'homme du carcan de son identité. Sur la scène, c'est l'acteur qui est au cœur de cette énigmatique mutation du sang en parole. Mais s'il met en scène le processus eucharistique, c'est de manière inversée. « Ô vide, retiens-moi hors de mon corps par trois gouttes de sang !» demande l'anthropoclaste dans l'acte catastrophique. Que vient en effet affirmer l'acteur dans sa posture christique ? Ceci n'est pas mon corps. La scène est alors l'épiphanie de son corps échoué, de son sang versé. Le processus de spectralisation est au cœur de l'incarnation du personnage de l'acteur. Dans la dramaturgie novarinienne, la qualité du travail de l'acteur repose sur sa capacité à décomposer sa propre humanité. À lui seul, il catalyse une gigantesque catastrophe ontologique. Je cite, « C'est en suicidé qu'il entre sur scène pour offrir une maladie propre à la chair. C'est le plus grand de tous les désespérés. Bref, c'est un nul parfait », déclare Novarina. On comprend pourquoi il est alors associé à un cadavre. Il traverse comme personne l'inhumanité et la dépossession. Proche en ce sens du théâtre de la mort de Cantor, mais aussi du théâtre de Craig et d'Artaud, Valère Novarina place le cadavre au cœur même de son théâtre, associant le jeu de l'acteur à un rituel macabre. Pour entrer sur scène, l'acteur, précise Novarina, doit franchir une terrible frontière mentale, comparable à l'expérience d'une mort que symbolise une étrange porte. Je cite. Ça se voit tout de suite quand un acteur est entré, s'il est passé ou non sous la porte, s'il est bien détruit, passé à néant ou non, s'il a passé ou non par-dessus son propre corps en entrant. Ça se voit à la lumière qui sort de lui, qui n'apparaît que sur ceux qui sont bien anéantis. Si, comme le suggère Martine Bory, la porte n'est sans doute pas sans rappeler le rideau d'une eau qui se soulève pour laisser entrer un acteur venu d'ailleurs, ou la porte du théâtre chinois de l'époque des Yuan, porte par laquelle se faisaient les entrées et les sorties et s'appelait la porte des esprits ou la porte des ancêtres. Dans le théâtre de Valère Novarina, elle est surtout associée au rituel d'un sacrifice qui viendrait écraser la figure humaine pour lui faire perdre son évidence de chair. Car l'expérience du fantôme chez Novarina n'est pas seulement une expérience de la nuit, comme le suggère Martine Bory. En fait, elle vise davantage à matérialiser de façon incongrue l'effet de déréalisation. Dans sa théâtralisation du macabre, l'acteur vient mettre en scène un état limite de l'être, un état intermédiaire où il tend vers la différence du rien. Tel est le défi que doit relever l'acteur, non pas seulement aller dans le royaume des morts, mais en revenir. Or, ce retour implique, dans la dramaturgie novarinienne, un processus de spiritualisation burlesque. Certes, son nihilisme intégral le rapproche du Christ, Valère Novarina insiste sur son état d'homme défait, de sacrifié, mais quand il joue aux morts, il affiche un perfectionnisme suicidaire qui frise l'exhibitionnisme impudique. L'auteur décrit l'indifférence à soi avec un cynisme risible. Il le présente tantôt comme un décapité qui continuerait à se débattre sur la scène avec la tête coupée. Tantôt comme l'égotiste contrarié marchant sur son corps qu'il traite comme son chien. Tantôt comme un enragé lançant mille grimaces au destructeur. Dans tous les cas, le corps de l'acteur est un mort qui surenchérit sur son cadavre. Son sacrifice cultive alors l'humour noir. L'humour noir exile l'humain jusqu'à l'objet. L'acteur pousse la mortification du propre jusqu'à la réification. Il redevient homme de bois, pantin, marionnette. Mais le mort est sous le signe d'une réjouissante survie. Quand Michel Bodina traverse la scène dans son costume de croque-mort, son apparence funèbre annonce une joyeuse vitalité. Il ne s'exprime d'ailleurs qu'en chantant. Dans l'opérette imaginaire, le mort entre et sort sur son chariot. Il est une sorte de parlant muet. Il se montre non pour dire quelque chose, mais pour dire qu'il ne dira rien, et ce faisant, exposer sa présence incongrue. C'est un cadavre ambulant, qui gesticule comme un acteur acrobate dont la présence est d'autant plus ostensible qu'elle n'a rien à dire. En fait, son inconsistance est l'envers d'une extraordinaire plasticité. Comme dans le film burlesque Get Out and Get Under, oh la belle voiture, dans lequel Harold Lloyd épousait fidèlement les mouvements de sa voiture, les corps des acteurs dans la scène des avertisseurs, pris dans la carcasse d'une automobile, finit par se confondre avec elle. L'animal roulant essaie de ressentir en vrai le passage d'un feu rouge à l'orange, et Diogène, au volant, prend sa remorque pour son cadavre. De la fumée s'échappe de sa pensée, tandis que l'anthropoclaste demande à Panthée « Où as-tu garé ton esprit ?» laquelle répond « L'avoir bloqué à la troisième porte ». La réification burlesque de l'acteur est ici à comprendre comme la possibilité d'un processus d'infinitisation. L'acteur en bois, double d'un Christ piteux, est d'abord la mise en scène d'un combat qui entend se débarrasser des oripeaux de la figure humaine et la réalité de ses accessoires. Mais au-delà, elle conduit à une sorte de dépassement ontologique, comme si le plus proprement humain s'avérait être le moins propre. Face au monde qui glorifie d'autant plus l'homme qu'il le réduit davantage à un objet, l'acteur qui surenchérit sur son cadavre jusqu'à devenir un visage en pâte, une figure réduite en bouillie, est une manière de rappeler qu'il est des figures au-delà de l'humain, comme le disait Céline. Dans ce contexte, le comique macabre opère la transgression des frontières et le dépassement du cadre anthropologique. La mort s'apparente en fait à un processus anamorphotique qui fait dégénérer les formes, dans un mélange extravagant des règnes naturels et des corps. Démiurge à l'envers, l'acteur est alors le chantre d'un perpétuel recyclage des matières. Son sacrifice christique engendre en effet une série de gags anthropomorphiques. On le voit dans la scène procéder à ce que Andrzej Falkiewicz appelle l'épluchage de l'oignon. Il enlève sous les yeux du spectateur d'abord une pelure, puis toutes les couronnes successives. Où finit l'oignon ? Et qu'y a-t-il au milieu ? Rien, un trou, un déchet d'homme. Isaïe Animal, au terme de son dépouillement, se résume ainsi. « Je suis dans le sans fond, j'ai rien dedans. Ma face, où es-tu ? Je ne suis qu'un trou de paroles ouvertes. » Or, cet écart creusé au cœur du sujet lui donne une disponibilité comique capable de lui faire endosser toutes les formes de vie. Il se disperse alors joyeusement dans tous les sens, jusqu'à se figer dans la posture d'une pancarte, jusqu'à devenir un morceau de la matière à qui la parole advint, ou s'écraser dans un caillou, comme le demande l'anthropoclaste. Ceci est un caillou, jetons-nous sur lui de tout notre poids. Pluralité de formes provisoires, toujours instables, l'acteur protée, défait les ordres, inverse les lois de la généalogie. Quand la Sibylle parodie la dispersion des cendres, elle prophétise dans son immense boîte à joie l'apparition d'une poussière d'individus en dehors de toute logique chronologique. Un gag résurrectionnel qui anéantit ce qui n'est pas encore pour le faire apparaître à partir du lieu où il n'est déjà plus, la Sibylle. Voici les cendres de mon père, les cendres de ma mère, je les mélange et je n'apparais point. Je les secoue, me voici moi, je les divise. Voici les cendres de mon fils arrière et les cendres de l'arrière-petit-fils de mon prochain grand-père. Je les mélange en une immense boîte à joie et je les verse à la poubelle, dans la nuit. Prononcez le discours aux choses. Inversant la représentation d'un corps enclos dans son enveloppe narcissique pour l'ouvrir à ses potentialités infinies, le macabre prophétise une poétique du corps renaissant de ses anamorphoses. Elle inaugure une poétique du corps grotesque qui, comme le rappelle Michael Bakhtin, n'est jamais prêt ni achevé. Il est toujours en état de construction, de création, et lui-même construit un autre corps. Dans ce corps en mouvement, Valère Novarina se plaît à imaginer toutes les postures d'un corps ouvert, en perpétuelle mutation, pantin, animal, objet. L'acteur est un vêtement qui peut être habité par toutes les figures. Il pousse, dans son inconsistance, le composite et l'altérité à l'extrême. À la fois vivant, comme le lieu de l'énergie, de la parole, est mort parce que viande, organe sans nom qui s'offre au champ opératoire de la scène, le corps de l'acteur est au cœur d'un processus résurrectionnel qui révèle, via le macabre, l'homme à sa nature, à la fois charnelle et infinie. D'où ces incorporations grotesques qui singent le sacrement de la scène pour affirmer l'expansion proprement dévorante de son corps, autrement dit, sa soif de matière, sa jubilation pour le concret et le réel. habité par un puissant sens du jeu ou irrésistiblement entraîné vers des chansons qui les débordent, ses corps ouverts, polymorphes ou déjantés des opérettes, ouvre la voie d'un comique lazaréen qui n'exclut pas un sentiment aigu de tragique. Mais dans les pièces de Novarina, le sens du tragique est incroyablement mobile et facétieux. Il surgit là où on ne l'attendait et ne donne jamais le dernier mot au désespoir qui pourrait l'habiter. L'acte inconnu est à cet égard significatif. La pièce propose une sorte de radicalisation du jeu pour la mort en offrant une liturgie funéraire, à la fois réjouissante et profondément tragique. Dans l'acte inconnu, la mort trouve en effet une consistance particulière en faisant explicitement écho à la disparition de deux êtres chers à l'auteur, celle de Manon Novarina, mère de Novarina, celle de l'acteur Daniel Znik, acteur incomparable, bien connu du public novarinien, qui meurt en septembre 2006, au moment où Vincent Baudrier propose à Valère Novarina de monter sa prochaine pièce dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Dans l'acte inconnu, on pourrait dire que la phrase de Novarina de l'entrée dans le théâtre des oreilles, « J'écris au milieu des décès, non loin des morts », trouve une actualité saisissante. Le spectral était en effet surexposé. La pièce se place dès l'ouverture sur le signe d'Hamlet. Elle est jouée dans la cour d'honneur, un lieu saturé de fantômes, d'histoires et de mémoires. Les fantoches de la mère et de l'acteur Yorick Znik hantent le spectacle en s'interférant mystérieusement dans le mur de pierre morte, en creux, dans le rocher d'ombre, centre évidé du drame, ou dans le lieu du crâne Golgotha, dont la femme spirale exhibe les fragments. Mais le dialogue avec les morts ne se fait pas sur le mode du pathos. Novarina ne choisit pas la pesante solennité des hommages. Il fait au contraire de l'acte inconnu un hymne à la joie, même si cette joie est de nature tragique. Cette désorientation humoristique est d'emblée visible dès l'ouverture de la pièce, à travers le détournement parodique des scènes d'apparition du fantôme d'Hamlet. Le spectre du père cède la place à celui de Samir, tandis que le bonhomme Neil, portant le masque de l'acteur Daniel Znik, propose au fantoche de tuer son pire. Elle trouve son apothéose carnavalesque à l'acte 3, au terme d'une cérémonie funèbre qui fait éprouver le vertige comique d'une résurrection théâtrale. C'est d'abord une cérémonie évoquant la dormition de la Vierge, où le fils entreprend de mettre au monde sa mère. Je cite, « Je sors l'âme de cette femme qui m'a donné la vie et mis dans les chiffres. Son âme est en chiffon. » L'alphabet maternel ne permettra pas à la chiffre morte qu'est la cadavre de se relever. L'homme nu extrait du linceul un poupon qui, projeté en l'air, finit par s'écraser lamentablement à terre. « L'opération est ratée », conclut-il. Mais ce ratage comique n'en reste pas moins salutaire, car le dispositif burlesque est une manière de résister à l'esprit de sérieux, au jugement triomphant. Les disparus ne se durcissent pas en figures héroïques, mais conservent dans cette désorientation humoristique toute leur fragile humanité. Vient ensuite la dormition de Polichinelle, cet appareil gigantesque à tuer la mort, est-il écrit, qui procède devant nous au relèvement du mort Yorick Znik. Le chantre commence par appeler les acteurs par leur nom, puis les comédiens s'emparent de l'immense pantin qui gît sur un brancard à l'avant-scène et dressent la marionnette du fantoche, l'immense casaque blanche de Polichinelle flottant au vent, pour l'escorter tout autour du plateau en entonnant la chanson que Daniel Znik chantait dans l'Origine rouge. La danse macabre, qui allie l'immobilité de la mort à la mobilité de la danse et qui fait écho au relèvement du corps dans la fête de Pâques ou la fête des morts, provoque ici une sorte de vertige comique en déstabilisant notre sens de gravité. Cette sortie du mort que les acteurs promènent sur scène se dérobe en effet aux visions mortifères pour les convertir en pure joie théâtrale. Mais cet art du retournement du mortifère en vitalité procède d'une manière double et inversée. D'une part, la danse ne donne pas à voir un masque mortuaire, comme celui que portaient par exemple les acteurs dans le théâtre antique. Mais la figure animée d'une marionnette dont l'empreinte a été prélevée sur Znik vivant. Inversement, d'autre part, le gigantisme de la marionnette ne nous donne pas l'illusion de voir l'acteur Daniel Znick en chair et en os. La marionnette n'évince pas la mort, mais au contraire retourne le vide de la disparition en une absence visible et audible. Tel est le don, pourrait-on dire, de cette liturgie funéraire. Offrir au spectateur la vision d'une allégresse macabre miraculeuse, celle de revoir l'acteur disparu, réinvestir l'espace scénique pour rejouer à nouveau, en offrant aux morts, aux disparus, la capacité de s'incarner à nouveau, par-delà sa propre disparition, dans le champ bien vivant, bien matériel, bien concret du théâtre. La marionnette est au cœur de ce miracle résurrectionnel. Elle conduit l'être vers un point de dépassement ontologique, une sorte de point limite qui fait éclater les cadres habituels du spectaculum en rendant visible l'invisible. En d'autres termes, elle fait décoller les choses et les êtres de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ne sont plus pour les recomposer et les faire jouer indéfiniment, une belle manière de les empêcher de se figer dans un carcan mortifère. Le comique novarinien est alors le lieu d'une possible traversée de la douleur humaine, de la passion de l'homme, justement parce qu'il barre le chemin à la désespérance et qu'il libère le tragique du compassionnel. C'est un rire psychopompe qui invite à vivre le tragique sans pour autant s'y laisser mourir. On pourrait le rapprocher du risus pascalis, ce rire de Pâques, qui dans la tradition médiévale s'autorisait des facéties irrévérencieuses dans les églises pour exprimer la joie de la résurrection. Ce comique singulier ne se confond pas avec la franche gaieté. Il est davantage l'expression d'une force de vie qui fait que l'homme continue à tenir debout, que la vie continue au sein même de la mort. C'est pourquoi il se dérobe aux visions mortifères et parvient à convertir le tragique en pure joie théâtrale. Réjouissons-nous de ce comique lazaréen qui nous secoue, nous anéantit, nous relève et nous délivre. C'est un comique à la fois tonique, à la fois destructeur et régénérateur. Je vous remercie.